Maghreb, Julia Trangeval.
Bonjour. À la Toussaint 1954, les Algériens se soulèvent contre le pouvoir colonial français. C'est le début de la guerre d'indépendance qui durera jusqu'aux accords d'Évian en mars 1962. Les Moudjahidines, des combattants souvent sans formation militaire, parfois simples paysans, vont stupéfier le monde en résistant face à une armée bien supérieure en nombre et en équipement. Ils vont résister par les armes, bien sûr, mais aussi grâce aux images. Dès les années 1955-1956, le camp nationaliste adopte une véritable stratégie de communication qui passe par la photographie. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invitée, Marie Chaumineau, historienne de l'image, qui dirige avec Sébastien Ledoux aux éditions du CNRS un ouvrage intitulé « Algérie, la guerre prise de vue ». Mais d'abord, c'est la voix de ces combattants que nous écoutons. La première voix, c'est celle d'Amar Latrèche, dit Amar Srir, un combattant qui va côtoyer les plus grands noms de la Révolution. Il accompagnera ainsi Youssef Zeroud au congrès de la Soumam en 1956, un moment décisif du conflit. Pour notre correspondante à Alger, Keira Yahia, il se souvient des premières heures de son engagement.
Amar naît en 1935 dans un douar de Gigel, sur la côte est de l'Algérie. Il est initié dès son jeune âge à l'apprentissage du Coran et à l'âge de 12 ans, il quitte son village pour Constantine. Il rejoint son oncle, employé dans une boulangerie coloniale. Il en profite pour intégrer la célèbre école des ulama musulmans, où il est plongé dans un environnement où l'anticolonialisme est omniprésent. Pour lui, comme pour tant d'autres Algériens, la lutte contre l'occupant devient une évidence. Il comprend que rejoindre le combat est plus qu'une option, c'est un devoir envers son peuple et sa terre. Lorsqu'il rencontre un cousin des Aurès, une région symbole du début de la Révolution, la détermination de Amar se renforce. Inspiré par les récits de résistants, il sait qu'il doit se battre aux côtés de ceux qui rêvent d'indépendance. Il a à peine 20 ans, quand il rejoint les rangs des révolutionnaires dans la Wilaya 2, qui couvrait l'est de l'Algérie. Amar porte désormais le surnom de Amar Srir, un nom donné en écho à sa jeunesse, car parmi son groupe, il était le plus jeune à embrasser la lutte. Sa première mission était d'aller à la rencontre des villageois dans les terres reculées, leur passer le message du FLN et leur donner l'opportunité de rejoindre le combat.
Comme je faisais des études à Constantine, on m'a dit qu'il me fallait faire des discours à la population. J'allais dans les cafés avec une copie de versets coraniques dans la poche. Je leur expliquais ce que faisait la France. Et je les faisais jurer un par un de ne jamais parler de notre présence et de ne jamais trahir l'Algérie.
Et comment s'organiser ces rassemblements ?
Nous n'annonçons rien. Ça se passait dans les cafés. Et dès qu'on voyait que la salle était remplie, on me demandait d'aller m'adresser à eux. À cette époque, nous étions peu nombreux et nous n'avions pas d'armes. Mais au départ, c'était dur, parce que les gens ne nous connaissaient pas.
Durant ces longs et périlleux voyages dans les villages les plus reculés de l'est d'Alger et en Kabylie, il fait la rencontre des plus grands combattants de la Révolution. Krim Belkacem, Si Abdullah Ben Tobel, Amar al-Rachid ou Ali Kafi. Si Amar nous raconte une des plus grandes opérations pensées et exécutées par son chef de guerre, Zeroud Youssef, un des responsables du FLN, figure symbolique de la Révolution.
L'attaque a commencé à midi. Elle visait en même temps des commissariats et des gendarmeries, les postes et les télécommunications. L'opération prévoyait aussi de bloquer des routes. C'était le plan. Brûler les fermes, tuer les colons. C'était une offensive majeure de Zeroud Youssef.
Dans l'attente du lancement des combats, une conversation avec Zeroud Youssef retient son attention. Ces mots résonnent encore.
J'étais en train d'attendre avec un camarade quand Zeroud Youssef lui a demandé « Qu'aimerais-tu faire après l'indépendance, après que nous ayons gagné contre la France ?» Il lui a répondu « Je souhaite juste combattre et mourir. » Alors Zeroud lui a dit « Si tu répètes ces paroles, c'est nous qui te tuerons. Tu n'attends que ça, mourir. Qu'en est-il de l'Algérie ?»
«
Les Algériens ne cesseront de rejoindre la lutte pour l'indépendance tout au long du conflit, même très jeune. Keira Yahia a rencontré Larbi Aliwa, trop jeune pour rejoindre le maquis. Il se verra confier d'autres missions pour aider les révolutionnaires.
Si Larbi Aliwa, dont le village de Wedzhor de la wilaya de Jijel a été lourdement bombardé par les forces coloniales, a suivi un cursus scolaire à Annaba. Son vœu de rejoindre les combattants algériens à 14 ans se voit refusé à cause de son jeune âge. Ceci ne l'empêchera pas d'y participer à son niveau.
Il est éligible, situé des dictionnaires pour la traduction. Bon, j'avais un dictionnaire qui ne m'appartenait pas, qui appartenait à mon cousin. Bon, je l'ai pris sans la demander l'autorisation d'ailleurs. Je l'ai pris parce qu'il le prenait pour le maquis, pour le secrétaire justement, pour faire des traductions en arabe, en français. Donc j'ai commencé comme cela. Et puis quand à l'école normale, bon, j'ai été appelé à faire le collecteur de fonds, donc de ramasser de l'argent auprès des normaliens, pour les donner justement au FLN.
En 1961, il a 19 ans et sans prévenir sa famille, dans la nuit, il rejoint le combat en tant que commissaire politique.
À l'époque où avaient commencé les négociations pour les accords d'Évian, donc on expliquait que les négociations sont en train de se faire. Et la France doit donner à l'Algérie la possibilité de l'indépendance, donc de voter, il faut bien sûr voter le référendum, il faut voter oui.
Sel Arbi, appelé aussi Bazouich dû à son jeune âge, s'habitue petit à petit à son nouveau mode de vie. Jusqu'au jour où une opération tourne mal, l'information de leur présence dans un village fuite et ils apprennent qu'ils seront bientôt pris au piège par l'armée française.
On s'est séparés en deux groupes. Un Algérien rejoint le responsable parce que j'étais le secrétaire et on est parti à travers champs. Bien sûr, on savait qu'il y avait quelque chose. Le temps de sortir, de faire quelques centaines de mètres, on voyait un char arriver, un blindé, et puis un deuxième derrière lui. Moi, j'avais un cartable en bandoulière avec les documents, j'avais les grenades, ma montre, l'autre, il avait son fusil. Donc, on est arrivé à Oued. Dès qu'on est arrivé, on voyait un tracteur. On lui a fait ça, il est venu, il est arrivé, je vous ai vu. J'ai vu le char, je vous ai vu arriver, on est monté sur le tracteur et tout de suite, il a contourné l'Oued. Dès qu'on est passé, par la suite, on ne voyait plus.
Le soulèvement algérien est devenu un exemple pour d'autres nations colonisées, faisant de l'Algérie un symbole mondial de la résistance. Dans les années qui suivirent l'indépendance, la ville fut surnommée la Mecque des révolutionnaires, attirant les regards de mouvements de libération à travers le monde. Aujourd'hui encore, cette flamme demeure dans le cœur des Algériens.
Carrefour du Maghreb, avec Juliette Rangeval.
70 ans après, trois images de la guerre d'Algérie. Les deux premières sont des clichés prises par des Algériens dans le maquis, en prison. La troisième image censurée est une série de photographies sur l'usage de la torture dans l'armée française. Dès le début de la guerre, les nationalistes ont pris conscience de l'importance de la photographie. Prendre des photos coûte cher, il faut du matériel, cela peut s'avérer dangereux, mais ça va permettre d'avoir des images de la guerre et de pouvoir affronter l'État colonial français dans la guerre d'images qui se joue alors. Algérie, la guerre prise de vue, c'est le titre de l'ouvrage dirigé par Marie Chaumineaux et Sébastien Ledoux pour les éditions du CNRS. Et Marie Chaumineaux, historienne de l'image, commente pour nous ces trois clichés extraits de son livre.
Cette photographie, elle a accompagné mon parcours de recherche et d'une certaine manière, elle l'a presque hantée. Elle m'habite depuis de nombreuses années et cette photo, elle a été prise en clandestinité, au maquis, et c'est la première fois que toute la famille, donc le père, la mère et les quatre enfants, sont photographiés ensemble. Et c'est aussi la dernière fois, puisque quelques mois après la prise de cette photographie, le père a été tué au maquis. Ce qui est très particulier, c'est que le FLN, donc le Front de Libération Nationale, avait formellement interdit normalement la prise de photographies, on va dire privées, personnelles, familiales, dans les maquis. C'est vraiment assez rare et ça s'explique probablement par la position du père. Il était commissaire politique et le principal conseiller du chef de la région. Donc il avait peut-être une plus grande marge de manœuvre. Par ailleurs, en tant que commissaire politique, il possédait un appareil photographique. Et ça, c'était encouragé par le FLN pour documenter à la fois la lutte, mais aussi la répression de l'armée française, puisque ces images avaient vocation à sortir et à être utilisées par les services d'information du FLN. Là, il en fait un usage différent, un usage personnel. Et effectivement, il a organisé pendant les vacances de Pâques le fait que sa famille au complet vienne lui rendre visite. Ils sont venus passer 2-3 jours. Sur l'image, on voit uniquement des buissons d'alpha, aucune construction qui permettrait d'identifier où ça s'est passé. Pour le cas où la photographie soit saisie par l'armée française, parce que ça pouvait entraîner des représailles. Et il est allé uniquement accompagné de deux autres personnes, deux compagnons d'armes à lui. Un qui faisait le guet et l'autre qui a pris la photo. Trois des enfants, puisque le quatrième est mort, trois des enfants m'ont raconté cette scène. Le père et la mère sont au centre et les enfants sont répartis autour d'eux. Et ce qui est très étrange pour le regard d'aujourd'hui, c'est que le fils aîné porte l'arme de son père et prend une pose qu'il imagine assez virile et qui est en fait une manière de copier les poses que prenaient les maquisards, les combattants algériens, quand ils se faisaient prendre en photo. Ce moment qui aurait dû ne pas arriver, de se retrouver ensemble au maquis et de se faire prendre en photo, c'est leur dernier moment d'intimité et il y en a une trace.
La deuxième photo sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est cette photo qui a été prise au Beaumet en 1961 avec des détenus politiques algériens pendant la représentation d'une pièce de théâtre. Et c'est pareil, on n'imagine pas qu'une photo ait pu être prise à ce moment-là et d'ailleurs elle n'aurait pas dû être prise.
Le texte a été rédigé par Fanny Layani, qui est une historienne qui est en train de finir une thèse sur les prisonniers algériens dans les prisons françaises. La genèse de cette image, c'est un appareil photo qui rentre dans la prison via les parloirs avec les avocats. C'est quand même une époque, 1961, où dans les prisons françaises, il y a énormément de détenus algériens. Ils ont mené des mouvements de revendication et en particulier des grandes grèves de la faim. Et les grèves de la fin de l'été 59 leur ont permis d'obtenir quasiment tous un régime spécial de détention qui s'appelait le régime A et qui les assimilait à des détenus politiques avec un certain nombre de droits, entre autres celui de pouvoir organiser à certaines dates de l'année et en particulier lors de certaines fêtes religieuses, là c'est le cas, c'est la fête de l'Achoura, des rassemblements, et donc soit des pièces de théâtre, soit des concerts, etc. Et donc là, ils s'emparent de cette opportunité qui leur est donnée pour monter une pièce d'Emmanuel Robles qui se situe dans la révolution vénézuélienne. Donc, a priori, rien à voir. Ils conservent le texte, mais par contre, par les décors qu'ils créent de manière complètement artisanale, par les costumes, etc., et les attitudes, ils la transposent visuellement dans le contexte de la guerre algérienne. Et ce qui est extrêmement intéressant dans cette image et que Fanny décrit très bien, c'est qu'on a plusieurs centaines de détenus. Il n'y a pas un seul gardien.
La troisième photo sur laquelle on va s'arrêter, en fait, ce sont des photos qu'on ne voit pas dans ce livre. Ce sont des images de la torture et on ne les voit pas pour des questions de droit. Tout tient dans le texte.
Effectivement, c'est un texte écrit par Raphaël Branche. Et effectivement, elle nous a proposé, là, c'était pas une seule image, c'était une série de 5 images prises par un reporter civil. Il n'avait l'autorisation de photographier dans les zones où l'armée opérait que en présence de l'armée. Aujourd'hui, on appelle ça un bedded. C'est pas du tout un cas isolé. Donc du coup, il est avec l'armée pour faire un reportage sur un secteur. Et il est témoin d'une scène qui commence par le tabassage d'un suspect algérien et qui se termine dans une autre pièce attenante par une scène de torture. Il a pris plusieurs images à la suite, donc du coup, en les assemblant et en les analysant, ça permet à Raphaël Branche de comprendre et de décrire l'enchaînement des faits et de s'arrêter sur les différentes personnes qui sont présentes, puisqu'il y a plusieurs soldats. Ça lui permettait de décrire ce qu'elle a étudié pour sa thèse, qui étaient des pratiques systématiques.
Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les images alors ?
Ces photos ont été, elles ont déjà été publiées. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on publie une image, il faut demander l'autorisation soit à l'agence de presse, soit aux ayants droit, enfin au photographe lui-même, ou en l'occurrence, puisqu'il est mort, à ses ayants droit. Donc, c'est ce que nous avons fait. L'éditeur a été en négociation avec les ayants droit, qui ont exigé 3 choses. De relire le texte avant de donner leur accord final, que le nom du photographe ne soit jamais mentionné et qu'il n'y ait aucun détail qui permette de remonter à lui. Et troisièmement, que tous les visages soient floutés ou qu'il y ait des bandeaux noirs sur les yeux. Raphaël a respecté ces différentes contraintes et le texte a été proposé à la famille qui a refusé.
On reste sur ce texte qui est malgré tout extrêmement fort, effectivement. Ça montre quand même que sur cette guerre d'Algérie qui est 70 ans après le début, encore terriblement douloureuse et encore terriblement compliquée, enfin, la mémoire ne passe pas toujours.
Malheureusement, moi j'ai même l'impression que là, dans ces 5-6 dernières années, on recule, on va en arrière. Parce que je vous disais, ces images, elles ont été publiées, elles ont même été exposées en 2012. Elles ont été publiées dans un catalogue à ce moment-là. Et il y a des choses que nous avons pu faire, que nous avons pu écrire, que nous avons pu présenter dans les années 2000-2015, qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Je sens une sorte de crispation, de repli de la société et de retour vers des idéologies très fortes et très concurrentielles. Une forme de concurrence des mémoires qui ne sert pas forcément l'histoire.
Marie Chaumineaux, dans Carrefour du Maghreb, je vous rappelle le titre de cet ouvrage collectif, Algérie, la guerre prise de vue, c'est aux éditions du CNRS. La guerre, c'est un extrait du dernier album de Labesse, d'Ilma Libré, sorti il y a un mois, tout juste, Carrefour du Maghreb, à la réalisation Théo Raison. Dans un instant, la musique continue sur RFI, c'est Légende urbaine avec Juliette Fiedel.
La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est trop souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. À croire que c'est de leur faute. Les cerfs volants de Kaboul ont déserté le ciel. Ils ont cédé leur place aux grands oiseaux de fer qui inondent de flammes les ruelles afghanes au nom de la justice et de la liberté. Qu'on en fasse des livres ou bien une chanson, reste le souvenir d'un jour que les enfants attendent comme un rêve qui n'a pas fait 100 ans. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. À croire que c'est de leur faute. La guerre, à croire que c'est de leur faute. La guerre, c'est souvent chez les autres. La guerre, à croire que c'est de leur faute. À croire que c'est de leur faute.